Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Blaise Zainda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Bonjour Blaise Zainda. Bonjour Blaise Zainda. Apparemment, il n'est pas encore là. Lui non plus n'est pas encore là. C'est docteur de José Katkisingi. Il est coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC CONAFOD en sigle, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national. Il n'est pas encore là. J'espère qu'il va nous rejoindre. Et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Woltos, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Bonjour Madame Stéphanie Woltos.
Bonjour Guy et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On me signale que Blaise est là. Blaise Zainda, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes manager des médias. Bonjour.
Bonjour Guy Maté et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Blaise Zainda. Il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Docteur de José Katkisingi qui devait être là avec nous, il est coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national qui n'est pas encore là. Et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Woltos, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025 pour mettre fin au conflit armé dans l'est de la RDC, pression de la communauté internationale au Rwanda pour qu'il retire ses troupes de la RDC et cesse tout soutien au M23, et enfin, quel est le sort des populations civiles dans la partie est du pays, surtout les entités sous occupation de l'AFC M23 soutenues par le Rwanda. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet des récents massacres des civils dans le territoire de Djougou, en Ituri. En effet, au moins 52 civils ont été tués, 8 autres personnes blessées et des dizaines de maisons incendiées dans la nuit de lundi à mardi 11 février lors d'une attaque de la milice Codeco dans les localités de Laoudjo, Lindou et Lodja dans les groupements Djariba, territoire de Djougou, en Ituri. Des miliciens de Codeco, venus en grand nombre, ont envahi lundi dans la soirée vers 22h ces 3 localités où ils ont opéré jusqu'à 2h du matin. Ils ont ouvert les feux sur les civils et ont tué d'autres à coups de machette, expliquent des témoins. Ces miliciens ont également mis les feux sur des dizaines de maisons d'habitation, créant une panique généralisée dans la région, rapportent des sources concordantes. Le lendemain, dans la nuit de mardi à mercredi 12 février, des miliciens de la Codeco ont mené une nouvelle attaque qui a fait 8 morts, toujours dans le village de Lodja, à environ 90 km au nord de Bounia, groupement des Djaïba, territoire des Djougou. D'après des sources de sécurité, plus de 50 maisons et tous les biens qui s'y trouvaient ont été également incendiés par ces miliciens. De nombreux habitants de cette entité ont fui dans les villages proches. Blaise Zainda, comment vous comprenez la persistance des massacres des civils dans cette province, alors que plusieurs fois les miliciens, lors des différents dialogues organisés par le gouvernement, se sont engagés, n'est-ce pas, à ne plus recourir à la violence pour régler leurs problèmes?
Je pense que avec ces événements, ce sont des événements qui fendent mon cœur. Je suis très attristé de constater que des Congolais peuvent s'élever contre d'autres Congolais et faire preuve d'une atrocité sans précédent par rapport aux massacres qui sont commis dans cette partie du territoire national. Alors, nous devons noter qu'il y a simplement ce qu'on appelle une mauvaise foi de la part de toutes ces milices qui sont en soi des forces négatives, qui ont signé certains accords ou certains traités pour mettre un terme à cette saga de violence. Mais bon, je pense que maintenant les Nations Unies, j'ai ouï dire qu'il y a des camps intermédiaires qui vont être aménagés pour mieux protéger ces populations civiles. Et les Nations Unies, les contingents qui sont encore actifs sur le terrain devront leur apporter toute l'assistance possible. L'Ituri est en train de s'embraser. Le gouvernement central devrait accorder une attention particulière à cette situation pour que finalement l'on puisse parler d'une paix pérenne dans cette partie du territoire national, parce qu'on en a marre de vivre ces événements qui ne font que s'enchaîner, et il est peut-être possible en ce moment précis d'utiliser un bâton qui va essayer de mettre un terme à toutes ces forces négatives qui ne doivent même pas exister. Seule la police nationale congolaise et l'armée doivent exister pour assurer la sécurité des biens des personnes ainsi que des territoires. Donc voilà mon point de vue. Donc c'est à dénoncer et il faudrait que l'on prenne toutes les dispositions pour que les responsables, les coupables soient punis de manière très violente et que c'est si que les violences ne redeviennent plus en Ituri qui ne fait que souffrir. Mais malheureusement, ce cri de détresse semble ne pas avoir beaucoup de répondants du côté de plusieurs animateurs du pays.
Justement, Blaise Zainda, c'est depuis plusieurs années que cette situation perdure. Ces miliciens commettent des actes innommables, mais on n'a jamais initié des poursuites contre, n'est-ce pas, contre ces miliciens. Est-ce que ce n'est pas cette impunité qui pourrait expliquer la récurrence, n'est-ce pas, de ces massacres?
Vous l'avez si bien dit, c'est une prime à l'impunité qu'on est en train de remettre à ces personnes, sinon elle ne répondrait jamais. Je ne sais comprendre que quelqu'un qui soit à la tête d'une milice arrive calmement à Kinshasa ou à Bunia et se tienne devant les autorités comme si de rien n'était, sans être inquiété, alors qu'il a du sang sur ses mains. On est en train de macheter, on est en train de happer les enfants avec des machettes, je ne sais pas quoi. Des images horribles qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont sur plusieurs groupes WhatsApp. Ce sont des personnes qui doivent être sévèrement punies. Et si on doit construire une République démocratique du Congo beaucoup plus forte, beaucoup plus aguerrie, il faudrait que l'on puisse neutraliser ces genres de personnes qui ne méritent pas, à mon humble avis, de disposer d'une liberté ou de penser être congolais au même titre que les autres, avec beaucoup de sang sur leurs mains.
Merci. Madame Stéphanie Wolkoff, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'armée de la RDC ne soit pas en mesure d'empêcher ces massacres depuis plusieurs années? Ce seraient des milices avec des connexions à l'extérieur. On comprendrait qu'elles aient, n'est-ce pas, une certaine capacité de résistance. Mais là, on a affaire à des groupes armés locaux qui, officiellement, n'ont pas des connexions à l'extérieur du pays. Comment vous expliquez le fait qu'on ne soit pas en mesure d'empêcher tous ces massacres?
Je crois que nous savons depuis assez longtemps que les FRDC sont une force très affaiblie, qui manque de ressources, d'entraînement, où souvent les soldats ne sont même pas payés. Et en plus de ça, on sait aussi qu'il y a des membres des FRDC, surtout à l'Est, qui sont eux-mêmes impliqués dans le trafic de minerais, dans les activités économiques illicites. Tout ça veut dire que de temps en temps, ils ont aussi des liens avec ces mêmes milices qu'ils sont censés combattre. Et donc tout ça fait, à mon avis, en sorte que c'est une armée qui ne peut pas défendre la population, qui ne peut pas arrêter des milices et garder le territoire. Ça, malheureusement, on est en train de le voir très clairement aussi au nord et au sud Kivu. Donc je crois que c'est l'un des plus grands problèmes, que la réforme du secteur de sécurité n'a jamais vraiment abouti. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement appelle à plus en plus de jeunes de se joindre au FRDC, mais il y a un vrai problème de ressources, il y a un vrai problème aussi de corruption qui nuit à la bonne distribution des ressources qui sont mises à la disposition de l'armée et qui sont souvent volées par des gens qui font eux-mêmes partie de cette armée. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un corps sur lequel on peut compter. Mais vous l'avez aussi dit, Guy, que l'impunité joue un rôle très important dans tout ça, que ce soit pour les FRDC, que ce soit pour les milices. Ces gens-là se permettent depuis des décennies, en fait, de massacrer des civils sans vraiment avoir à être jugés, même sont libres de leur mouvement, ne sont pas arrêtés. Et les populations là-bas, dans ces zones touchées par cette insécurité, n'ont pas vraiment de recours à la loi, aux cours, et ils sont plus ou moins livrés à ce cycle de violence et impunité de la part des milices, de la part de l'armée et tout autre groupe.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Les Immortels, cette composition de Franklin Boukaka, et on se retrouve juste après.
Afrika ma bimba e, to kangi ma boko, to zali kota la e. Bana basili na kokende, bana basili na kote kamae, na banguna. Tola timo kuya ata malobate, Congo na badafrika baleli. Afrika mabimba e, to kangi maboko, to zali kotala e. Bana basili na kokende, bana basili na kote kamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Oh, medi ben baka, medi zela na yo ya patoryonso, medi zela na yo ya Lumumba, medi zela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mounye, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choy, Medinzela na yo ya Tsoroki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Y'a tiers monde, oh oh, y'a libération, y'a pas peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification.
Oui, c'était Les Immortels avec Franklin Boukaka, ce chanteur, guitariste et auteur-compositeur de la République du Congo. Franklin Boukaka était un artiste engagé qui avait été assassiné le 22 février 1972 à Brazzaville à l'âge de 32 ans, après avoir été accusé d'être impliqué dans un complot d'assassinat contre l'ancien président congolais, les camarades Marien Ngouabi. Paix à son âme. C'est aussi une façon pour nous de rendre hommage à l'artiste musicien de la République démocratique du Congo qui vient d'être assassiné à Goma, au Nord Kivu, Delka Teidengo, de son vrai nom, Delphin Katembo Vunyati, assassiné ce jeudi dans la capitale du Nord Kivu. Il était encore trop jeune. Que son âme repose en paix. On revient à côté cette semaine, les sommets conjoints SADC et EAC tenus à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025 pour mettre fin au conflit armé dans l'Est de la RDC s'est clôturé avec des résolutions à court et moyen terme. Parmi ces résolutions, il y a d'abord de toute urgence cet appel lancé par les chefs d'État de la SADC et EAC à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Ils ont demandé le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires afin que soit assurée l'aide humanitaire et la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma. Autre résolution, ce sommet conjoint a chargé les chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC de se réunir à court terme, c'est-à-dire dans un délai de 5 jours pour fournir des directives techniques sur l'instauration d'un cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates sans condition. Madame Stéphanie Waltoff, vous êtes chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Vous avez souhaité nous parler justement de ce sommet conjoint EAC-SADC qui s'est tenu samedi dernier à Dar es Salaam. On vous écoute.
Oui, Guy, merci beaucoup. Je crois d'abord que ce qu'on peut dire de positif par rapport à cette réunion, c'est que les deux instances régionales, la SADC dont est membre la RDC et l'EAC dont est membre la RDC, mais aussi le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi, se sont mis d'accord pour discuter. Ça, c'est peut-être l'une des choses positives qu'on peut dire sur ça. À part ça, vous avez bien résumé toutes les décisions qui avaient été prises au niveau de ce sommet. Pour moi, ça a été trop peu et trop tard. Vu que ça a eu lieu et que le déclic de ce sommet, c'était la chute de Goma, nous nous retrouvons dans une situation militaire qui se développe, qui se détériore du côté du Congo de jour en jour. Et je trouve que ce qui a été décidé là-bas, c'est vraiment trop, trop neutre. Et en plus, c'est pas du tout, en fait, ça n'aura pas un impact immédiat sur terrain. On a parlé des 5 jours pour mettre en place les modalités d'un cessez-le-feu. On est déjà 5 jours après, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'aéroport de Kavumu vient d'être pris par le M23, alors on ne peut pas du tout parler d'un cessez-le-feu. Alors quelque part, tout ce qui a été décidé au niveau de ce sommet est déjà dépassé. Et c'est ça que je reproche à cette réunion, c'est que je crois que les gens qui étaient là savaient très bien que, quelque part, les décisions prises là-bas n'allaient pas vraiment avoir une pertinence sur le terrain et non plus un impact tangible pour arrêter, au moins pendant quelques jours, pendant quelques semaines, l'avancée militaire et les hostilités pour permettre aux civils de se remettre, pour permettre aussi à des discussions d'avoir lieu, pour permettre aux médiateurs sur différents niveaux de s'engager. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Je trouve aussi que l'une des autres choses qu'ils ont décidé, c'est-à-dire l'idée de mettre ensemble le processus de Luanda avec le processus de Nairobi, ça n'arrange pas du tout les choses. Les discussions au niveau de Luanda, c'est entre Kigali et Kinshasa pour résoudre leurs problèmes, tandis que Nairobi, c'est par rapport aux groupes armés à l'est de la RDC, qui aujourd'hui sont engagés dans une lutte contre le M23. Ce n'est pas le moment maintenant de leur demander d'aller se rejoindre entre eux pour discuter de quelque chose quand tu as un groupe comme le M23 qui gagne du terrain de jour en jour et qui n'est pas un groupe congolais, mais un groupe qui vit grâce au soutien rwandais. Donc vraiment, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce qui a été décidé là-bas. Et c'est très malheureux parce qu'on doit compter sur ces instances africaines pour quand même mettre en œuvre quelque chose pour essayer de commencer à résoudre vraiment sensiblement ce conflit. On peut peut-être espérer que les choses seront plus sérieuses au niveau de l'Union africaine ce week-end lors du sommet, mais souvent on fait récurrence justement aux instances régionales. Et là, si c'est le meilleur effort qu'eux ils peuvent faire, je trouve que c'est un effort qui est décevant.
Oui, vous avez dit que toutes les résolutions qui ont été prises lors de ce sommet conjoint EAC, c'est-à-dire que ces résolutions n'auront aucun impact sur le terrain parce que la situation est en train, n'est-ce pas, d'évoluer autrement. Et vous ne pensez pas que ce soit aussi par le fait que à la clé, on n'a pas prévu des sanctions à l'endroit de toutes les parties qui refuseraient, n'est-ce pas, de se conformer à ces résolutions. Là où il n'y a pas de sanctions, les gens peuvent se permettre de faire ce que bon leur semble, n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est sûr. Mais en fait, la SADC et la EAC prennent très, très rarement des sanctions contre leurs États membres. Ça, c'est presque du inattendu. C'est l'une des grandes faiblesses, d'ailleurs, de ces instances. Des fois, par exemple, on peut regarder ECOWAS, ils sont beaucoup plus, ils restent sur leurs principes par rapport à certaines choses pour sanctionner un État membre quand il y a quelqu'un qui va à l'encontre des principes. Mais EAC et SADC, c'est pas vraiment le style qu'ils ont adopté. Alors, par rapport à ça, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on allait voir des sanctions sortir de cette réunion. Évidemment, il ne faut pas oublier non plus que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi font partie de l'EAC, et donc les voir sanctionner l'un des leurs, franchement, je crois que c'est trop espéré. Maintenant, les sanctions internationales, c'est une autre question, mais évidemment, ça fait partie des outils que nous espérons voir utilisés pour au moins mettre fin à cet avancement du M23 pendant un moment. Voilà.
Merci Blaise Zainda. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, vous êtes manager des médias. Comme vient de le dire Madame Stéphanie Waltos, on sent que les résolutions qui ont été prises samedi dernier par les chefs d'État de l'EAC et SADC ne sont pas, n'est-ce pas, respectées sur le terrain, parce que là on constate l'évolution de la situation avec cette avancée des rebelles du M23 AFC vers le sud Kivu. Déjà l'aéroport est tombé entre leurs mains et ils seraient en train d'avancer vers la ville de Bukavu. Et pendant ce temps, c'est le président João Lourenço, président d'Angola, qui est, n'est-ce pas, médiateur dans cette crise, qui vient de jeter l'éponge, comme on peut le dire, en évoquant le fait qu'il doit gérer, n'est-ce pas, l'Union africaine comme au président, et que là, il a beaucoup de dossiers, et c'est pourquoi il les dépose par rapport, n'est-ce pas, à la crise entre la RDC et le Rwanda. Comment vous entrevoyez la suite de la situation sur le terrain dans ces contextes quelque peu particuliers?
Voilà Guy, il faut d'abord retenir que la situation devient de plus en plus compliquée. Vous le savez, João Lourenço, c'est lui qui pilotait pratiquement le processus de Luanda. Il vient de jeter l'éponge, pour vous prendre votre expression, afin de s'occuper pleinement de ce qui concerne les continents. Mais je suis d'avis que l'idée que les deux organisations avaient prise était bien de mutualiser le processus de Luanda qui concerne la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que le processus de Nairobi, celui-là concerne tous les groupes armés. Parce que Kinshasa reproche au M23 de s'être retiré de ces processus-là qui concernaient pourtant tous les groupes armés. Alors, autant on a de preuves que le Rwanda soutient le M23, il n'y a pas que le Rwanda, moi je cite aussi l'Ouganda, parce qu'il y a aussi des preuves qui allaient, que l'Ouganda aussi, parce qu'on ne sait pas comprendre la chute de Bunagana ainsi d'autres choses. Ça signifie qu'au niveau de la région, il y a un sérieux problème. Alors, comment est-ce qu'on va régler ces problèmes pendant que deux pays de l'EAC sont en conflit, le Rwanda et la République démocratique du Congo? Mais il y a un troisième pays, le Burundi aussi, qui est en conflit avec le Rwanda. Donc ça crée une situation, une nébuleuse qui aura du mal à trouver de solution. On avait dit que la première des choses serait la cessation des hostilités qui n'est pas intervenue. À l'encontre, il y a eu accélération des hostilités. Et moi, je suis en train de militer, me battre pour que l'on puisse faire en sorte que les populations soient dans une situation beaucoup plus aisée. Parce que les gens se réveillent le matin, sont obligés d'aller d'un coin vers un autre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de services publics qui sont ouverts pour plusieurs coins. Ça ne conforte pas les choses. Il n'y a pas eu à Dar es Salaam des résolutions beaucoup plus contraignantes, malheureusement. Ils n'ont fait que, pour moi, c'était la littérature. On a parlé, mais sur le terrain, rien n'est arrivé. Je pense qu'il serait bon, des besoins pour le moment, de se pencher sur les vraies questions. Nous sommes Africains. Les Africains ont toujours cette volonté, cette possibilité de changer sous un arbre, palabré comme on le dit. Et c'est très possible que l'on puisse trouver des solutions en échangeant sérieusement et en crevant l'abcès par rapport à un tas de problèmes qui nous rongent. On a comme l'impression qu'on est en train de tourner autour du pot et qu'on ne règle pas le vrai problème qui doit être réglé et que la région des Grands Lacs puisse, qui est une des régions les plus belles d'Afrique, puisse vivre finalement en paix. Parce que les différents États sont en conflit, il y a la crise congolaise risque d'embraser cette région avec une déstabilisation qui ne dit pas son nom. On est en train de revivre des événements qui doivent être évités et tout le monde devrait apporter son soutien afin que nous puissions faire taire les armes et que nous puissions promouvoir ce qui va nous faire avancer et non ce qui va nous faire reculer.
Oui, lors de ces sommets EAC-SADC, on a souligné le fait que ces deux blocs sous-régionaux, n'est-ce pas, n'ont pas condamné le Rwanda. Et tout de suite, on se rend compte que ces deux blocs commencent à avoir la même convergence de vues par rapport à cette crise. Alors, si la RDC qui semblait compter sur la SADC se rend compte que même la SADC commence, n'est-ce pas, à épouser les points de vue de l'EAC, finalement, c'est quoi les derniers espoirs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tabler sur cette démarche que les évêques ont entamée récemment?
Oui, mais moi, je pense que cette démarche-là doit être suffisamment appuyée parce que ce sont nos pères spirituels, ce sont des personnes qui ont pris la volonté, une résolution de pouvoir mettre un terme à cette situation qui ne fait que durer. Ils ont dit que 2025, c'était une année consacrée à la paix. Et ce sont nos pères spirituels qui sont en contact permanent avec nos populations tous les jours pratiquement. Et si ces personnes-là se présentent comme salvatrices par rapport à la situation qui risque d'embraser la région, je suis, moi je pense que j'appuie cette démarche qui voudrait à ce que chaque intervenant dans cette situation soit vu et que l'on puisse trouver un pacte social qui mettrait tout le monde à l'aise. Pourquoi on devrait continuer à s'entretuer? Pourquoi on devrait continuer à subir des situations qui nous rappellent des temps anciens où tout le monde était en train de se battre avec une lance, telle une lance, telle une autre, une machette, ainsi de suite? Non. C'est une démarche qui est à saluer et on sait déjà, les évêques catholiques ont fait preuve de beaucoup, même les Lassenko nous ont beaucoup aidés à sortir des crises ici en République démocratique du Congo. Si ces personnes-là peuvent être utilisées pour nous sortir des crises au niveau de la région, ce serait une excellente chose. Qui n'accorderait pas son oreille à une autorité religieuse pour que l'on puisse trouver des solutions? Parce que déjà, elles, ces autorités religieuses n'ont pas d'intérêt particulier quant à la gouvernance ou quoi que ce soit. Non, elles, ce qu'elles veulent, c'est la paix. Et moi, je suis en train de m'étonner de voir qu'il y a des gens qui s'opposent à cette volonté née des pères spirituels, nous poussant à mettre un terme à cette situation.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le 14 février 1949, naissait un certain Joski Kiamukuta Londa au Congo central. Cet artiste musicien, auteur, compositeur et chanteur de l'orchestre Oke Jazz. S'il était encore vivant, Joski Kiamukuta, l'une des belles voix, n'est-ce pas, de la musique congolaise moderne, aurait, le 14 février 2025, 76 ans. Mais il nous a quittés le 7 mars 2021, ici à Kinshasa. À l'occasion de son anniversaire de naissance, on va écouter une de ses compositions intitulée « Médecin de nuit » et on revient juste après.
Na puta.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de la persistance des massacres des civils dans les territoires de Djougou en Ituri. Nous avons également analysé les sommets conjoints SADC-EAC qui s'est tenu à Dar es Salaam samedi 8 février sur la crise sécuritaire en RDC. Participe à cette émission, Blaise Zainda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Il devait être avec nous, docteur de José Kakisingi, coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires de développement de la RDC, une plateforme avec plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national, mais n'est pas là avec nous aujourd'hui. Et en ligne depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Wolters, elle est chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales. Les députés européens ont appelé ce jeudi 13 février la Commission européenne et le Conseil à suspendre immédiatement les mémorandums d'entente sur les chaînes de valeur des matières premières durables entre l'Union européenne et le Rwanda. Ils ont levé cette option dans une résolution adoptée au cours d'une plénière tenue à Strasbourg en France. Selon ces élus européens, cette mesure court jusqu'à ce que le Rwanda cesse toute ingérence en RDC, y compris l'exportation des minerais extraits des zones contrôlées par les rebelles du M23. Ces députés ont également demandé aux États membres de l'Union européenne et aux institutions financières internationales de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda jusqu'à ce qu'ils permettent l'accès humanitaire à la zone de crise et rompent tous les liens avec le M23. Pour ces élus, la Commission et les pays de l'Union européenne devraient cesser leur assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises pour éviter de contribuer directement ou indirectement à des opérations militaires abusives dans l'est de la RDC. Des sanctions à l'encontre des personnalités de l'armée rwandaise seraient aussi sur la table. Madame Stéphanie Wolters, est-ce qu'on peut dire que le taux est en train de se resserrer autour du Rwanda?
Je crois que les discussions au niveau de l'Union européenne, au niveau d'autres pays comme les États-Unis par rapport aux sanctions et les mesures punitives contre le Rwanda sont en cours et que certainement la prise de Goma et puis la prise imminente de Bukavu probablement vont encore renforcer cette détermination de justement imposer des sanctions ou d'autres mesures punitives. Je crois que c'est la ligne rouge quand même, mais la question qui reste à poser aussi, c'est est-ce que ce n'est pas trop tard pour convaincre Kagame, pour convaincre le gouvernement rwandais d'arrêter de soutenir la M23? C'est-à-dire, les sanctions auraient certainement été plus utiles bien avant qu'on arrive à cette situation-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont accomplir? Certainement, si on joigne à des sanctions les coupures d'aide, ça pourrait avoir un impact sévère sur le Rwanda, Mais n'oublions pas qu'ils ont toujours accès aux ressources à l'Est, et pas uniquement parce qu'ils occupent maintenant une grande partie du territoire, mais en fait ils avaient accès à ces minerais à travers des systèmes et des réseaux illicites bien avant qu'ils ne recommencent avec leur soutien pour la M23. Donc, c'est-à-dire, le Rwanda ne sera pas totalement appauvri si même on coupe certains budgets de développement. Évidemment, au niveau des États-Unis, avec le gel que Trump a mis sur l'USAID, cette option n'est plus là pour les États-Unis. Mais bon, tout ça pour dire, aujourd'hui, les sanctions, qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Certes, il est important de les imposer parce qu'il faut quand même faire savoir au régime de Kigali et puis à d'autres gouvernements partout que ce genre de comportement n'est pas du tout acceptable. Mais est-ce que ça va arrêter le soutien de Kagame pour l'M23? C'est une question qu'il faut quand même se poser.
Voilà, vous dites que ces sanctions arrivent trop tard. Alors, si elles arrivent trop tard, et donc ça ne pourrait pas, n'est-ce pas, dissuader Kagame, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour faire fléchir le Rwanda?
Je ne suis pas sûre. Je ne dis pas que c'est sûr que les sanctions ne vont pas changer le comportement de Kagame. C'est clair que ça fera mal au pays. Mais quelque part aussi, je me dis, quand la décision a été prise de prendre de plus en plus de terrain, de prendre Goma, de prendre Bukavu, le Rwanda a dû s'attendre à ce que la réaction contre elle soit plus sévère qu'elle n'était avant. Alors peut-être qu'ils ont pris un risque calculé, où ils se sont dit, on va pousser et on va arriver à avoir ce terrain. Et c'est ça, en fait, notre but, peu importe les conséquences. Certainement, on peut dire que quand tu as Goma sous ton contrôle et que tu as aussi Bukavu sous ton contrôle, ta force dans une négociation est plus forte. Mais comme j'ai dit aussi, il faut absolument qu'il y ait des conséquences sévères pour le Rwanda, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. C'est totalement inacceptable. Mais à quel point est-ce qu'il faut pousser ou est-ce qu'il faut punir, si je peux utiliser le mot Kagame, pour qu'il s'arrête, c'est difficile de dire. Je crois quand même qu'un temps fort venant de l'Union africaine, par exemple, venant de l'EAC ou bien de la SADC, serait très important pour le dissuader de continuer. Est-ce qu'on verra ça de la part de l'Union africaine? Je ne suis pas sûre. Le CPS de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, se réunit ce soir. Peut-être qu'on verra un langage fort. C'est à espérer pour qu'on puisse quand même arrêter cette campagne militaire.
Blaise Zainda, la décision a été prise par l'Union européenne et tout est suspendu, n'est-ce pas, à la décision de la Commission et au Conseil européen, et parce que ce sont eux qui doivent trancher. Vous pensez que l'Union européenne serait prête, n'est-ce pas, à préjudicier ses intérêts avec le Rwanda au profit de la RDC?
Je sais que ce qui est vrai, c'est que il y a des avancées considérables vis-à-vis des Européens qui pensent qu'il est temps quand même de punir, si c'est le mot qu'on doit chercher, punir le Rwanda, mais en lieu et place de vouloir toujours faire des déclarations, je crois qu'il faille passer à l'acte. Je me rappelle qu'en 2012 ou 2013, il y a la Grande-Bretagne qui avait exercé une pression et qui avait suspendu son aide vis-à-vis du Rwanda, et cela a quand même eu un impact assez positif par rapport à l'image qu'on devait vendre de la Grande-Bretagne vis-à-vis du Rwanda, qui paraissait comme un pays qui ne cajole plus le Rwanda, mais qui agit efficacement pour essayer de remettre de l'ordre par rapport à ce qui ne va pas. On doit s'attendre à ce que l'on puisse voir un autre flanc. C'est vrai que le Rwanda est en train de gagner du terrain à Bukavu, il n'y a pas qu'au Bukavu. Les zones minières, c'est beaucoup plus dans le côté rural. Il y a eu Rubaya, il y aura maintenant, nous espérons qu'on va trouver une solution bien avant que Mwenga et d'autres zones minières ne tombent entre les mains du M23. Mais n'oubliez pas aussi une donne, et les Européens et les Américains ont les yeux rivés vers quoi? Vers le Qatar, vers ces pays-là qui semblent être le principal en termes d'argent aujourd'hui au niveau de la planète, qui pourtant entretient des très bonnes relations avec le Rwanda. Il n'y a pas longtemps, le Rwanda et le Qatar viennent de signer un accord qui permet une libre circulation de personnes et des biens où il n'y a plus de restrictions de visa. Vous comprenez? Donc, au-delà de l'Union européenne, le Rwanda, si il se pense être un peu coincé, peut se servir du nouveau partenaire qui semble être beaucoup plus confiant.
Blaise Zainda, au-delà de la position de l'Union européenne, on n'attend pas la voix des Africains. À part les pays de l'EAC et de la SADC, les autres pays africains s'étaisent. Comment vous expliquez ce silence des Africains?
Ben, on est divisé, hein, on est divisé. Vous connaissez que les intérêts sont divergents. Il y a des pays qui sont très amis au Rwanda, du moins qui partagent un intérêt commun en ce qui concerne les relations qui sont en bon terme avec le chef de l'État rwandais. Il y a d'autres pays qui sont aussi dans une situation d'observation, qui ne voudraient pas, en plein 21e siècle, entrer dans une spirale de conflits avec d'autres pays. C'est ainsi que moi je comprends les choses. Ils ont des problèmes beaucoup plus importants à régler qu'ils ne voudraient pas se remettre à commencer à foutre leur nez, excusez-moi l'expression, dans des problèmes qui, en principe, ne les concernent pas.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Ben Saï de Goloko Joker et on se retrouve juste après. Ben Saïd, chanson contenue dans l'album Mongé Mongé d'Akwamo et Voloko Lai Lai Joker. Et je rappelle que nous avons dans cette émission Blaise Zaïn, il est journaliste indépendant, il est manager des médias et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Les banques installées dans la ville de Goma n'ouvriront leurs portes que sur instruction des autorités monétaires de Kinshasa, en particulier celle de la Banque centrale du Congo, BCC. Ceci est la réponse donnée mercredi 12 février par le responsable des banques et institutions des microfinances au chef de la rébellion du M23 qui occupe le chef-lieu de la province du Nord Kivu depuis quelques semaines. Les responsables des banques, des coopératives d'épargne et de crédit ainsi que les institutions des microfinances ont échangé mercredi à Goma avec les représentants du M23. Ils ont parlé de la possibilité de la réouverture des banques et des institutions financières dans cette ville. Par ailleurs, les pharmaciens qui opèrent dans Goma tirent la sonnette d'alarme sur une immense pénurie des médicaments. si l'aéroport de cette ville restait fermé. Ces professionnels de la santé affirment qu'actuellement, dans certains dépôts pharmaceutiques, des médicaments ne sont plus disponibles depuis quelques jours. Ce sont ces dépôts qui distribuent les médicaments aux pharmacies qui vendent ensuite à la population. À cause de la rareté de certains produits dans les dépôts pharmaceutiques, leur prix commence déjà à augmenter. Cette augmentation va de 10 à 75%, rapporte des sources à Goma. Blaise Zaïnda, vous avez choisi de nous parler du sort des populations civiles dans la partie est du pays, surtout les entités sous occupation de l'AFC M23 soutenue par les Rwanda. On vous écoute.
Je disais que nous avons constaté que, comme vous l'avez dit si bien dans les nouvelles que vous venez de nous balancer, la situation est confuse hein, par rapport aux populations qui vivent des carences en produits pharmaceutiques, carences en liquidité pour exécuter certaines dépenses. Et il y a lieu que les autorités de la République démocratique du Congo puissent s'attarder sur la question, parce que moi j'estime à mon humble avis que s'il y a des personnes à punir, en tout cas, ce ne seraient pas les populations qui doivent être punies. Vous comprenez? Je ne sais pas si on se comprend. Si l'on arrive à apporter des restrictions par rapport aux institutions des microfinances qui dépendent de la Banque centrale, par rapport à certaines banques qui dépendent de la Banque centrale, je pense qu'il y a toujours un moyen que l'on peut trouver pour essayer de contrôler les choses afin que les populations ne puissent pas subir le coût de cette guerre. Déjà qu'elles vivent dans la sécurité, déjà qu'elles ont entendu des coups de feu et beaucoup d'autres bruits que personne ne voudrait entendre, il est besoin maintenant de s'attarder sur certains allègements qui permettraient à la population de se faire soigner correctement. Même ces fameuses entités occupées par la M23, elles ont toujours passé des épreuves d'examen d'État ou des tests nationaux de fin d'études primaires. Donc, à mon humble avis, l'État congolais peut voir et réunir ces intelligences pour que les services publics soient toujours opérationnels et que les différents services soient toujours mis au profit de la population sans pour autant voir comme interface directe ceux qui occupent la ville. Et là, je pense déjà que même les résolutions au niveau de l'EAC et de la SADC ont convergé dans ce sens-là par rapport à ce qui permettrait à la population, en tout cas, d'être plus ou moins dans des dispositions humaine acceptable.
Oui, vous avez suivi le banquier à Goma qui parlait devant les dirigeants du M23 qui occupent cette ville-là et qui estime que tout est fonction de la volonté de Kinshasa. Mais si tout est fonction de la volonté de Kinshasa, c'est-à-dire de la Banque centrale du Congo pour que les banques puissent ouvrir à Goma, dans la pratique, ça pourrait se passer comment? Kinshasa qui ne contrôle pas la ville, comment pourrait-il être en mesure, n'est-ce pas, de gérer cette situation afin que les banques puissent fonctionner normalement dans la pratique?
Mais toutes les banques sont connectées à Kinshasa. Kinshasa contrôle les flux financiers des banques. Il y a la direction d'opérations bancaires et de politique monétaire, je ne sais pas. Il y a cette direction et d'autres directions de la Banque centrale qui peuvent, comme je l'ai dit, réunir les intelligences pour canaliser les choses. J'ai cru entendre que les agents et fonctionnaires de l'État continueraient à recevoir leur salaire, et le même mécanisme peut être utilisé aussi pour que ceux qui ont des dépôts au niveau de la banque puissent récupérer de l'argent pour acheter de la nourriture, qui pour payer les frais des études de ses enfants, qui d'autres pour exécuter une autre tâche quotidienne. Donc c'est tout à fait possible. Sinon, les dangers sur lesquels, c'est que nous allons continuer à engraisser le Rwanda, déjà qu'en termes de boissons, on sait que Goma est présentement nourri et desservi en termes de boissons par le Rwanda. Et si on continue comme ça, ils vont trouver des mécanismes qui ne nous compenseront pas. Je pense qu'il faudrait que nous gardions quand même cette souveraineté économique-là pour que nous soyons à l'abri de cette situation qui pourrait être catastrophique.
Merci, Madame Stéphanie Waltoff. De l'Afrique du Sud, d'où vous intervenez, quel regard avez-vous de cette situation?
Oui, je crois que la situation pour ces civils, moi je suis très loin, mais je lis bien sûr des rapports, est très très compliquée. Vous avez évoqué au début de l'émission l'assassinat du musicien Delcat. On apprend aussi qu'il y aurait des arrestations des activistes comme les gens de la Lucha. Je crois que toute voix critique, que ce soit à Goma ou bientôt malheureusement aussi à Goma, a des raisons de craindre des représailles de la part du M23. Donc c'est encore plus compliqué pour eux de travailler. travailler et de faire ce qu'ils font qu'avant. À part ça, comme vous avez évoqué justement la décision de Kinshasa de ne pas envoyer des espèces ou bien en fait les transferts, pour moi, comme disait Blaise, c'est pas une question pratique, c'est une question de manque de volonté, et je crois que l'idée derrière ça, c'est de frustrer les autorités du M23 qui aiment dire qu'ils sont là et qu'ils contrôlent et qu'ils gouvernent bien. Et là, c'est une façon très concrète de montrer que justement, ce qu'ils font, ça a des conséquences très, très difficiles et très dures sur la population. Et je ne crois pas non plus que ce serait tellement facile pour le Rwanda de remplacer ces banques-là, surtout pas les banques privées et pas la banque centrale. Et je ne sais pas non plus s'ils sont prêts à le faire. Donc c'est vraiment un grand problème. Et évidemment, ceux qui sont dans le milieu, c'est les civils. Même chose avec les carences pharmaceutiques. Tout ça, ce sont les poids qui tombent totalement sur les civils. C'est une situation très, très compliquée.
Et quelles recommandations pouvez-vous formuler à l'endroit aussi bien du gouvernement congolais que de la communauté internationale pour, n'est-ce pas, éviter une catastrophe humanitaire dans les entités sous occupation de la rébellion?
Bon, d'abord, je crois qu'il faut faire tout pour ouvrir l'aéroport de Goma, pour que les humanitaires puissent recommencer leur travail avec la même ampleur qu'avant, parce que les besoins sont énormes et que sont encore plus sévères qu'avant. On entend parler des hôpitaux qui sont trop pleins, justement comme vous disiez, des médicaments qui ne sont pas là, des médecins qui ne sont pas là, tout ce soutien qui vient normalement des acteurs humanitaires, la ville a d'autant plus besoin de ça. Il faut essayer de trouver une entente avec la M23, mais ça, encore une fois, ce sera probablement très difficile. Ils vont pas vouloir nécessairement ouvrir les portes à ça. J'imagine que Kinshasa espère que en ne pas laissant, par exemple, les transferts d'argent arriver à Goma, la population va être tellement frustrée avec la M23 qui vont peut-être s'agiter. Mais ça aussi, c'est les conséquences tomberont sur les civils. Il n'y a pas de solution très claire à cette situation. Ça dépend de la bonne volonté du M23, évidemment aussi, de respecter la population qui est sous leur contrôle.
Merci Blaise Zainda, on va finir cette émission avec vous. On se rappelle que ce n'est pas la première fois que la ville de Goma est occupée par les rebelles du M23. On a connu la même situation en 2012-2013. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de l'expérience du passé? Les mécanismes qui avaient été utilisés à l'époque en 2013 ou 2012 pour continuer, n'est-ce pas, à permettre à la population d'avoir accès aux services sociaux de base?
Si je me rappelle bien, Guy Mathieu, ces expériences-là, elles n'ont pas duré. Hein, en termes de temps, ce n'était pas aussi long. C'était les occupations qui n'avaient pas dépassé un long temps, à moins que vous évoquiez la période où il y a eu le RCD,
voilà,
qui a occupé sérieusement cette partie du territoire national.
Ouais.
Mais Goma a connu une petite occupation qui n'a pas duré dans le temps, ce qui a permis très rapidement que les choses redeviennent dans l'ordre. Mais là, nous avons comme l'impression que la situation s'enlise et que nous avons les intelligences dans ces pays. C'est le moment de se réunir pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut être sévère vis-à-vis de ceux qui occupent cette partie du territoire national, mais tout en ayant aussi un œil assez regardant, humain, vis-à-vis de populations qui subissent ces coups. Vous comprenez ceux qui occupent la ville en plus d'un tour dans leur poche. Ils peuvent utiliser d'autres banques, tout ça, mais que dirait l'habitant de Goma, le Gomatracien, qui lui n'a son compte que dans X banques, dans X coopératives, et qui n'est pas suffisamment approvisionné? Vous comprenez la situation? Sinon, le peu d'argent qui sont là doivent être déversés dans des banques des pays voisins, et ça, ce ne sera pas notre avantage.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Stéphanie Voltoff, Monsieur Blaise Zainda, on devait aussi avoir Docteur de José Kakisingi, qui est à Bukavu Sud-Kivu, mais qui n'a pas été avec nous dans cette émission aujourd'hui. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa, qui était à la technique avec la participation de Christian Lumumba, DJ Dali et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Aie pitié, une autre composition de Joski Kambukuta, toujours à l'occasion de son anniversaire de naissance. C'est jeudi 14 février. On écoute donc Aie pitié et on se retrouve le samedi prochain.
Kanenge moninga akulela yo
susi ya boliko na koni kobanga zoto mobimba ekomi ne popolo ngai na sala nini bapangi ya beso boli sumo na sala ngai na luka na swate o soki popesa laki ya ngai ngai na luka kina bonde la yeo.
Vamos,
Chama.
ma banza ha selina nga malopolo pela kingani boso ya kola la chéri je t'aime I love you mon amour Kaya wana kozemba na kolela kakaye yelanga tana ndoto omona ndenge na changer utashanga mama nazali kolela kakaye
amoni ngonga kaye
o santa
kanata moke
o koka
Cabana Motonioso, Ponce Asisteo, Boca Bola Bampa,
Bolivia, Calle, Banda Canata Moque,
La Cocufa,
Papa, Bala Catana, Sima, Ocomona, Serie, Natalina Colela, Taponioso, Mama,
Gayawana Conzemba, Nacolela Cacaye, Gayawana Conzemba, Nacolela Cacaye. Yelanga tanandoto omona ndenge na komi utashanga mama nazali kolela kakaye
amoringo kakaye
ila
ila
o ila ila
La destinée de Mbongo est pas à l'étongoboa, la carte à Bruxelles, pour la somme de la rue à Bijou, pour la bande de la yo, et pas à Jacques Mel. On dit Mangaïte, maman. Ngoboa, Puka, 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 Puka. Ma valise, y'a Toms.
Bruxelles. Au cas.